À l'émission Marcher en creusant, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Traverser nos fragilités », animée par le père Bernard Rugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
L'évocation des fragilités du monde, telle que nous l'avons faite dans les émissions précédentes, nous invite à une approche de la fragilité, une première approche d'un point de vue chrétien. Je le disais, depuis l'origine du christianisme, il y a une tradition de soulagement de la maladie, de la pauvreté, de souci du faible. Je crois que tout chrétien est habité d'une façon ou d'une autre par la parabole du bon samaritain. Les chrétiens ont aussi beaucoup parlé de la souffrance, tout simplement parce que le Dieu des chrétiens a fait lui-même l'expérience de la souffrance. Que le Christ soit passé par la croix pour nous sauver, pour nous libérer du mal, est au cœur de l'expérience chrétienne. Et donc, la question de la souffrance n'est pas simplement la question de la souffrance de l'homme, mais la souffrance de Dieu, d'une certaine façon. La Bible ne donne pas d'explication sur l'origine du mal dans la création. On ne nous dit pas pourquoi il y a du mal. Il y a bien le récit de la Genèse, qui est en fait un mythe, où les hommes ont essayé, à la lumière de l'Esprit-Saint, de comprendre quel est le sens de l'expérience du mal. Mais pourquoi il y a du mal dans ce monde, en fait, nous n'en avons pas l'explication. Mais si nous n'avons pas d'explication au mal, nous avons une réponse au mal. L'Écriture nous invite à y répondre par la compassion pour les victimes et par l'engagement pour la justice. Et donc, en christianisme, il ne s'agit ni de glorifier la souffrance, ni de la fuir. La souffrance fait partie de notre condition humaine, et ce n'est pas Dieu qui nous l'envoie. Cette souffrance ne lui plaît pas. La preuve, c'est que Jésus est venu pour la soulager. Lui qui dit « Vous qui ployez sous le fardeau, venez à moi et vous trouverez le repos ». Alors comment Dieu peut-il à la fois envoyer la souffrance et en même temps nous dire « Je vais la porter avec vous ». Bien sûr, la traversée de la fragilité peut être une occasion de mûrir dans la foi. L'expérience de la souffrance peut être, pour certaines personnes, une expérience cruciale qui les a libérées, qui les a fait grandir, qui leur a révélé qui elles étaient. Mais nous ne devons jamais dire à quelqu'un qui souffre que c'est une grâce de Dieu. Peut-être que la personne y trouvera une grâce. Peut-être qu'elle pourra y reconnaître qu'une grâce y a été donnée par justement cette expérience de fragilité. Mais non pas que Dieu a envoyé la souffrance pour cela. D'autant plus, comme je l'ai déjà dit, qu'on ne sait jamais comment on va réagir à la souffrance. Et quel est le père, quelle est la mère qui exposerait son enfant à des souffrances, à des maux, sans savoir s'il pourra en sortir positivement, si ces maux ne vont pas l'écraser et le détruire. Or, notre Dieu nous aime infiniment mieux que des parents, que nos parents. C'est un mystère trop profond pour oser se prononcer avec légèreté lorsque nous accompagnons d'autres personnes confrontées à la souffrance. Il nous faut donc, en tant que chrétiens, accorder la priorité aux plus fragiles et aux plus faibles. Et cela a été l'attitude habituelle de Jésus. Je l'ai dit déjà, d'un point de vue chrétien, on juge une civilisation ou une culture à sa façon de traiter les plus fragiles. Et avec ce critère, les civilisés ne sont peut-être pas là où l'on pense. Nous sommes très satisfaits, nous les Occidentaux, de notre degré de civilisation. Mais ayant vécu et voyagé en Afrique, en Inde ou en Amérique latine, il me semble que la façon dont les personnes vivent leurs relations est parfois beaucoup plus humaine que nous, enfermés dans notre individualisme. Est-ce que vraiment nous sommes les civilisés du monde? Et l'attitude du Christ vis-à-vis des plus démunis et des exclus, et ce que lui-même nous a révélé de son Père à travers la façon dont il a vécu la fragilité, la façon dont il a vécu la souffrance et la mort, tout cela nous renvoie à un Dieu qui, en définitive, ne s'est pas comporté de façon toute-puissante, ni par rapport à Jésus, ni par rapport à nous. Et donc, toute la pratique de l'Église s'inscrit dans cette tradition qui nous vient du Christ. J'ai fait allusion au fait que, dès les origines du christianisme, il y a une priorité à la compassion. Et on le retrouve, par exemple, dans des expressions comme « les hôtels-dieux », les noms qui étaient donnés aux premiers hôpitaux. C'est intéressant de voir que le mot « hôpital » a la même origine que le mot « hospitalité ». Et il est vrai qu'en christianisme, il n'y a rien de sacré sur cette terre, contrairement à d'autres religions. Les chrétiens ne sacralisent aucun personnage, même pas le pape, aucun lieu, même pas Rome, aucun temps. Même s'il existe des temps, des personnages ou des lieux saints, sanctifiés, célébrés. Mais on peut dire que la seule réalité sacrée, c'est l'être humain en tant que personne créée à l'image comme à la ressemblance de Dieu. Il y a du divin dans l'homme. Et donc, toucher à l'homme, c'est toucher à Dieu. Et dans l'office du bréviaire, il y a une hymne qui chante « Qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme ?» Eh bien, c'est un Dieu qui est créateur, c'est un Dieu qui est père et mère, c'est un Dieu qui a pris notre réalité humaine jusqu'au bout, à part le péché. Et donc, c'est devant cette réalité de l'homme que nous devons nous agenouiller et rendre le service du frère, de la sœur, qui est image de Dieu. C'est la leçon du lavement des pieds. Et c'est Maurice Zindel qui disait que la façon dont Dieu a aimé l'homme en Jésus-Christ, c'est de se mettre plus bas que l'homme pour le soulever, faisant ainsi allusion au lavement des pieds. Et l'authenticité de notre célébration eucharistique se vérifie précisément dans le service du prochain et dans le combat pour la justice. Ce qu'on a parfois appelé le sacrement du frère ou de la sœur, qui est indissociable du sacrement de l'Eucharistie. Il y a aujourd'hui un très grand engouement pour l'adoration eucharistique. Tout d'abord, je dirais qu'on n'adore pas l'hostie, on adore Dieu vivant. Que représente cette hostie? Ensuite, nos adorations eucharistiques doivent déboucher aussi sur le lavement des pieds. Si à partir de là, nous ne sommes pas plus humbles, plus remplis de compassion, plus engagés pour la justice, quel est le sens de ces heures passées, les yeux fixés sur la lunule, sur l'hostie blanche? Cela nous console peut-être personnellement, cela nous sollicite peut-être spirituellement, mais quelle en est la fécondité au service du monde, comme Jésus l'a vécu? Donc nous ne pouvons pas séparer Eucharistie, adoration eucharistique, engagement dans le monde. Cela fait partie de la vocation humaine. Il nous faut donc bien accepter nos limites sans perdre l'espérance. La souffrance, je l'ai dit, n'a pas de sens en soi. Et cependant, l'expérience de la fragilité est fondatrice en anthropologie chrétienne pour un chrétien. Parce que c'est par l'expérience de la fragilité que nous prenons conscience que nous ne sommes que des créatures, que nous ne sommes pas Dieu, alors que nous sommes dans une société où nous sommes tellement tentés de prendre la place de Dieu, de jouer au sauveur. Il faut reconnaître d'ailleurs que c'est depuis l'origine, puisque c'est bien la faute d'Adam, c'est d'avoir voulu prendre la place de Dieu. Mais nous sommes dans un monde de l'excellence, un monde où on est fasciné par la toute-puissance. Et là, le grand danger, justement, c'est le refus de la fragilité. C'est le refus de reconnaître que l'homme n'est pas à sa propre origine, ni à sa propre fin. Et cela, il nous faut le regarder pour voir ce que cela nous enseigne pour un chemin spirituel. Je disais que nous sommes parfois tentés de prendre la place de Dieu, dans le sens de vouloir réussir notre vie et peut-être dominer les autres dans une certaine toute-puissance. Nous pouvons aussi, lorsque nous accompagnons des personnes fragiles ou en difficulté, parfois être tentés de prendre la place de Dieu en nous prenant pour le sauveur. C'est une tentation qui est tout à fait normale, parce que nous ne nous engagerions pas à aider les autres si nous n'avions pas envie de les libérer de leurs souffrances ou tout au moins de les apaiser. Et parfois nous sommes tentés par la toute-puissance. Nous aimerions faire des miracles. Nous faisons cependant l'expérience de notre propre fragilité et parfois de notre impuissance à soulager. C'est d'ailleurs souvent une expérience importante pour des soignants qui, après un certain temps de pratique, font l'expérience de l'impuissance de leur médecine ou de leur thérapie dans certaines situations. Certains sont dans le déni de cette impuissance, mais elle est bien là à certains moments. Alors, nous devons bien reconnaître que nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes de simples créatures, nous sommes des êtres en devenir, avec des espaces de fragilité qui sont différents selon les personnes, selon les âges de la vie. Et nous savons que la première fragilité que nous avons expérimentée, c'est après celle de l'embryon dans la vie intra-utérine, c'est celle du nourrisson. Dans les spiritualités orientales, il est souvent question de devenir des êtres réalisés, dans le sens de libérer. Mais ce n'est pas tout à fait de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle de l'épanouissement chez les Occidentaux. Parce que souvent, notre épanouissement peut être tenté de toute puissance. Dans les traditions d'Extrême-Orient, il s'agit plutôt de renoncer à l'ego, au désir d'être quelqu'un. On nous rappelle que tout est apparence et illusion, et que le « je », le « moi » est lui-même illusoire. De même, pour le chrétien, s'épanouir ne signifie pas arriver à dépasser toute fragilité. Il s'agit d'accueillir, de traverser la fragilité, mais pas dans le sens d'une conquête ou d'une victoire. La logique de nos contemporains irait plutôt dans le sens « il faut vaincre toute fragilité, il faut éliminer toute vulnérabilité, il faut devenir tout-puissant, il faut se blinder ». Comme on dit vulgairement, ça passe ou ça casse. Mais cela aussi est illusion. Certes, il nous faut utiliser les soins qui peuvent nous aider à mieux vivre et parfois à nous libérer de certaines fragilités précises. Certes, il nous faut faire un travail sur nous-mêmes pour pouvoir développer notre potentiel, nous humaniser, avancer. Mais ce serait une illusion que de vouloir se libérer de toute forme de fragilité. C'est rêver de toute puissance, d'une perfection inaccessible. À certaines époques de l'histoire de l'Église, comme du temps du jansénisme, on a fait beaucoup de dégâts en confondant sainteté et perfection. Nous n'avons pas à être parfaits, sans défaut, irréprochables. Ça, c'est de la toute puissance. Quand Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », au chapitre 5 de saint Matthieu, par exemple, il parle de la perfection de l'amour, de la perfection de la miséricorde. Mais nous ne sommes pas parfaits, nous ne serons jamais parfaits, même si nous sommes invités à aimer toujours mieux. Et c'est dans la mesure où nous avons été blessés, je dirais vulnérabilisés, que nous sommes capables de rejoindre les personnes souffrantes, conscients de nos limites et de nos défauts. Et à ce moment-là, nous n'essayons pas d'être parfaits, de tout contrôler, de devenir invulnérables. Être saint, c'est accepter d'être fragile. C'est consentir aux limites de son corps, de son affectivité, de son psychisme, regardez quelqu'un comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tout en continuant à aimer et à se laisser aimer. C'est se reconnaître pécheur. Et pour ceux que ce mot gêne, je rappelle qu'une des étymologies du mot pécheur, c'est rater la cible. Et qui de nous nierait que régulièrement il rate la cible? Il n'aime pas comme il voudrait aimer. Il ne fait pas ce qu'il voudrait faire. C'est se reconnaître pécheur et ensuite pouvoir parcourir un chemin de conversion. Nous sommes des êtres liés au temps et à l'espace, à l'usure de nos ressources, de nos bonnes résolutions. Nous sommes aussi des êtres exposés à la tentation. Et selon les époques de notre vie, nous sommes plus ou moins arrivés à un équilibre, à une certaine force. Mais nous savons que notre « bonne santé » entre guillemets n'est jamais qu'un équilibre à réajuster sans cesse, avec des limites, avec des consentements. Par ailleurs, nous savons que lorsque la souffrance du corps devient trop lourde à porter, le sujet que nous sommes risque de disparaître. Sujet dans le sens d'une personne autonome, ayant une certaine liberté, un certain contrôle sur soi-même. Au fur et à mesure que nous faisons l'expérience du vieillissement, de la maladie, du handicap, il est de plus en plus difficile d'être autonome et d'être reconnu comme sujet autonome, d'être respecté comme une personne à part entière. Déjà, les personnes qui naissent avec un handicap en font l'expérience. Mais c'est également le cas lorsque nous-mêmes nous tombons gravement malades ou que nous vieillissons. Et le danger pour notre entourage, c'est de ne plus nous voir comme un sujet, comme un être qui a une autonomie et une liberté, qui a encore une conscience et une valeur, mais plutôt comme un objet de soin, plus ou moins encombrant. Jusqu'à se dire parfois, il faut arrêter de ce corps, de le laisser souffrir, il est trop douloureux. En oubliant peut-être qu'il est encore et toujours une personne humaine. Et là vient le danger de l'euthanasie, par exemple. Quand le corps devient trop encombrant, le sujet risque de disparaître aux yeux des autres, et même à ses propres yeux. Et parfois il a envie lui-même de disparaître pour ne plus peser. Nous sommes parfois obsédés dans notre monde par la beauté, par la santé, par la jeunesse. On perd de vue la dimension de sainteté qu'on ne peut confondre avec la santé. Un trop grand souci pour la santé peut devenir un obstacle à un chemin de sainteté, c'est-à-dire de consentement à qui nous sommes. Et si nous nions cela, si nous refusons la limite parce que le sujet disparaît dans le refus de la fragilité, nous n'avons plus d'attitude juste par rapport à la pression de notre société. Je ne dis pas que les chrétiens n'ont pas à s'occuper de beauté, de santé, de développement personnel, mais il nous faut garder une liberté intérieure et un discernement par rapport à ce que le monde nous dicte de l'extérieur, la société nous montre comme modèle. Un autre aspect de notre fragilité fondatrice, c'est de faire l'expérience d'être, à l'un ou l'autre degré, marqué par le péché. Encore une fois, il nous faut bien reconnaître qu'à certains moments, nous vivons mal l'amour, et cela de façon volontaire et libre. Il a parfois été enseigné par certains chrétiens que la souffrance était la punition du péché. Non, ce n'est pas une punition, c'est une conséquence de notre éloignement de Dieu, non une punition de la part de Dieu. Dieu n'est pas à l'origine de la souffrance. Jamais, dans le Nouveau Testament, il ne se présente comme un Dieu vengeur. Dieu ne se réjouit pas de nous voir souffrir. Il ne veut pas la mort du pécheur, dit-il au chapitre 5 en Saint Luc. Le monde dans lequel nous sommes nés est un monde blessé par le péché, mais il ne s'agit pas ici de le présenter comme une souffrance envoyée par Dieu, comme une punition pour ce péché. Je disais que dans le Nouveau Testament, Jésus ne nous présente jamais Dieu comme un Dieu vengeur. Et d'ailleurs, quand les gens de son époque disaient que si telle ou telle personne était atteinte d'une maladie ou victime d'un accident, c'est sans doute parce qu'il y avait eu une faute et qu'il y avait là une punition, il a toujours refusé ce discours. Il nous dit que Dieu ne se réjouit pas de voir souffrir l'homme, de même d'ailleurs qu'il ne s'est pas réjoui de voir son fils souffrir. Je disais que notre monde est blessé par le péché. Le péché originel, dans le fond, c'est ce que nous rencontrons lorsque nous arrivons au monde. C'est le péché qui est là dès les origines, dans le sens qu'au départ nous en sommes victimes, puis petit à petit nous en devenons complices, et parfois même nous en devenons coupables. Mais s'il y a un rapport entre la souffrance et le péché, ce n'est pas dans le sens d'une punition, mais dans le sens que chaque fois que nous manquons d'amour, que nous péchons contre Dieu, contre l'homme, nous blessons Dieu et nous blessons l'homme. Nous blessons Dieu également qui s'est identifié au plus petit d'entre nous, qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme. Donc il ne faut pas prendre la souffrance pour une punition du péché. Mais cependant, la souffrance de l'autre est parfois la conséquence de mon péché, parce que nous lui avons infligé des blessures. Il a souffert de mon manque d'amour. Et puis il y a la souffrance morale que nous nous infligeons à nous-mêmes lorsque nous n'aimons pas bien, nous refusons de nous donner, nous faisons l'expérience de notre refus d'amour. Et cela aussi fait partie de l'expérience de la fragilité. Je ne fais pas ce que je voudrais faire. Toutes nos fameuses bonnes volontés, toutes ces découvertes que nous faisons sur le bien que je devrais faire et le bien que je ne fais pas. Et pourtant, le mal n'aura pas le dernier mot. En même temps que nous faisons l'expérience d'être des êtres blessés et pécheurs, en même temps que nous faisons l'expérience du mal qu'il y a dans le monde, il y a dans notre cœur cette certitude que le mal n'aura pas le dernier mot. Cette certitude, ou au moins cet acte de foi, cet acte d'espérance. Nous croyons que nous sommes des pécheurs pardonnés et sauvés, et que le mal dans le monde sera vaincu, parce qu'il a déjà été vaincu en Jésus-Christ. Nous croyons que notre Dieu ne nous enferme jamais dans notre fragilité, dans notre péché. Il ne nous enferme jamais dans le mal, parce qu'il a fini par le vaincre, par sa mort et sa résurrection en Jésus. Et Jésus montre qu'il y a toujours plus en nous, qu'il y a toujours une possibilité de recommencer, de renaître, d'accueillir le salut. Le salut ici étant pris dans le sens de la libération de tout ce qui nous empêche d'aimer, la victoire de l'amour sur le mal et sur la mort. Nous avons plein de récits dans les évangiles où nous voyons l'attitude de Jésus vis-à-vis de la femme adultère, vis-à-vis de Zachée, de Matthieu, de la Samaritaine. Son attitude avec Marthe et Marie, chaque fois que Jésus se trouve devant des personnes qui sont confrontées à leurs limites et à leur fragilité dans la foi ou dans le péché. Jamais ces personnes n'ont été identifiées à leur péché. Même s'il existe cette dimension de blessure et de fragilité en nous, il faut savoir aussi qu'il y a une part de liberté qui demeure, où nous pouvons rechoisir la vie. Sauf peut-être dans des cas de pathologie psychique très grave. Et là, bien sûr, nous sommes confrontés à un grand mystère. Mais il est vrai aussi que nous avons besoin bien souvent que quelqu'un nous prenne par la main pour que cela soit possible. Nous avons besoin qu'on pose sur nous un regard qui nous espère. Que quelqu'un croie dans les possibles en nous. Et c'est là cette solidarité humaine et cette fraternité humaine. Nous avons besoin de personnes qui croient qu'il y a du beau en nous, même quand tout semble désespéré, même quand nous désespérons de nous-mêmes. Surtout quand nous nourrissons une image trop négative de nous-mêmes. Et c'est le cas du père du prodigue. Les vrais regards d'amour sont ceux qui nous espèrent, disait le père Baudiquet, c'est-à-dire un regard qui voit au-delà de l'image ravagée que nous pouvons avoir ou donner de nous-mêmes, la flamme de l'espérance, de la vie, de l'amour qui est malgré tout là et qui peut toujours renaître de ses cendres. Il est vrai aussi, et ce n'est pas facile, que nous expérimentons que nous ne sommes pas à égalité devant les épreuves de la vie. Nous rencontrons parfois des personnes, et c'est peut-être nous-mêmes, où nous voyons qu'il y a des blessures très profondes, parfois des héritages très lourds à porter, au point qu'il y a de la révolte en nous, et même jusqu'à avoir un doute par rapport à la bonté et la justice de Dieu. Nous y reviendrons, mais c'est vrai que nous sommes là aux portes d'un mystère, qu'il est parfois très difficile d'accepter. Que l'on soit dans la situation de victime, de plus grande victime que d'autres, ou que l'on soit dans la situation de celui qui a été privilégié, qui se sent préservé, et qui parfois culpabilise par rapport à d'autres membres de la famille moins privilégiés. Mais, et c'est là qu'est l'expérience positive, c'est que l'expérience de la fragilité nous révèle que nous sommes des êtres de relation, que nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes. Et la première expérience de dépendance en tant qu'être de relation, j'y ai fait allusion, c'est le rapport entre le bébé et sa mère. Le petit humain est beaucoup plus dépourvu en entrant dans la vie que les autres créatures. Un bébé que l'on pose à côté du sein de sa mère n'est même pas capable de mettre de lui-même le téton en bouche. Alors que le poussin, que l'on a mis sous une lampe chauffante, dès qu'il sort de la coquille, se met à picorer la farine qui est autour de lui. Nous sommes donc des êtres plus fragiles que d'autres à la naissance. Nous devons tout apprendre. Mais en même temps, du coup, nous sommes des êtres obligatoirement de relation. Et nous n'existons que grâce à nos relations. Si nous sommes en vie les uns et les autres, c'est parce que nous avons rencontré de la bonté dans notre vie. C'est que nous avons rencontré des gens qui ont cru en nous, qui nous ont aidés à exister. Bien sûr, il y en a qui ont rencontré aussi beaucoup de regards négatifs. Mais nous avons ainsi fait l'expérience que nous avons besoin de solidarité, de justice, et qu'il nous faut donc consentir à une certaine dépendance. Parce que être un être autonome ne veut pas dire être un être indépendant. Dans le mot autonomie, il y a le mot, les racines, être capable d'avoir une loi de vie que l'on se donne. Se donner des règles pour vivre, et donc ne pas être totalement dans la dépendance de l'autre. Mais ça ne veut pas dire être totalement indépendant de l'autre. Donc il y a là aussi cette prise de conscience que mon autonomie s'accompagne d'une certaine dépendance et d'un besoin de relation. En outre, notre fragilité nous révèle que nous sommes des êtres en attente de salut. Nous ne pouvons pas en sortir tout seuls. Nous avons besoin de notre Dieu, nous avons besoin que Dieu vienne nous rejoindre au cœur de notre fragilité. Et c'est là que nous retrouvons cette belle expression employée par saint Augustin quand il dit « Mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi ». Le but de notre vie, c'est en définitive de reposer en Dieu. Et cela commence déjà maintenant, dans un abandon, dans la confiance, souvent de façon mystérieuse. Et pour un chrétien, ce sera l'expérience de la rencontre avec le Christ, qui nous regarde, qui croit en nous, et qui nous permet de lui dire oui dans la confiance et de faire l'expérience d'un abandon paisible et heureux.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.